voyageurs, d'ici une dizaine de minutes, notre TGV Noé rentrera en gare de Toulouse-Matabiau, son terminus. L'ensemble de l'équipage TGV Noé vous souhaite une excellente journée. Prochain arrêt Toulouse-Matabiau, terminus de ce TGV.
Salut.
Bonjour David.
Tu vas bien? Je te sers la pince.
Ouais.
Rentre, bienvenue à la maison.
Ok, merci.
Tu bois un café, j'imagine?
Ah ouais,
non
ouais, ok.
Ouais.
Merci.
Allez, je te fais couler ça.
David, comment t'es-tu lancé?
On est en 2003 ou 2004, je sais plus. Et je suis à la Coupe Icare. Alors la Coupe Icare, en France, à Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est un festival de parapente. Donc t'es en altitude, là, dans les montagnes, et tu regardes des personnes se jeter déguisées. C'est un truc déguisé, ils se déguisent et ils sautent en parapente. Et le soir, il y a de la musique, il y a des concerts. Et donc on est en voilà, 2003-2004, et je suis là-bas, je passe une bonne journée. Le soir, une petite amie de l'époque me dit « David, viens voir, il y a un instrument, t'as jamais vu ça de ta vie ». Moi, j'étais là, bon, j'en connais un rayon sur les instruments du monde ou je sais pas quoi. Allez, je la suis. Et puis, on arrive et là, il y a une foule de gens. Et je vois pas qui est au milieu, mais il y a quelqu'un qui a l'air de jouer. J'entends rien, mais je me rapproche et je commence à entendre un son magnifique. Je me ferai un passage, histoire de voir qu'est-ce qu'il y avait. Et il y avait un gars qui jouait du hang. Et en fait, il était tout seul dans l'air, mais en deux secondes, il y avait, je sais pas, peut-être 40-50 personnes autour de lui. Ça faisait vraiment un effet de foule. Et là, voilà, première rencontre avec le hang. T'imagines, je suis totalement tombé amoureux. Je rencontre ce gars, j'attends qu'il finisse de jouer et je lui dis, mais est-ce que je peux... Enfin, j'avais tellement de questions. Alors, la première question que t'as, c'est est-ce que je peux en jouer? Et après, comment ça marche? Je vais voir Dominique, je peux en jouer. Je joue, il me dit, mais tu sais déjà, t'en as un? Ou, enfin, je sais plus, il me dit un truc un peu comme ça, encourageant. Et je dis, non, mais je sens que le truc, il faut jouer léger. J'avais déjà un peu le toucher. Des fois, le son vient pas du premier coup. Et là, ça venait assez facilement. Et je lui dis, emmène-moi en acheter un. Et il me dit, alors, c'est fait par un seul gars dans le monde avec sa femme. Voilà, il me raconte un peu l'histoire. C'était le tout début, hein. Alors, il me dit un truc de dingue. Tenez-vous bien, les jaloux qui veulent des hangs. Il me dit, si tu veux, je te vends celui-là, parce que moi, j'aimerais bien en avoir un autre. Donc, à l'époque, lui et moi n'étions pas au courant que ça allait être la révolution, cet instrument. Et je me dis, ouais, ça peut m'intéresser, ouais, carrément, et tout. Puis, il me le vend 600 euros avec la housse, un hang. Donc, tu vois, aujourd'hui, les années où les hangs étaient au plus haut, il y a peut-être 3-4 ans, ils étaient à 10 000 euros, quoi, aux enchères et tout ça, sur eBay, machin. Donc là, je lui dis, go, je te l'achète, mais je veux bien quand même que tu m'emmènes chez l'artisan et tout. Je voulais découvrir ça. Et donc, il y avait des journées portes ouvertes à l'époque. Félix et Sabina ont fait des journées portes ouvertes, je crois, pendant 2 ans. Et donc, je suis allé là-bas. Et alors là, tu rencontres le couple, tu vois l'atelier, et puis tu vois plein de hangs. Et là, j'en ai acheté un deuxième.
Waouh !
Truc de fou. Et donc là, je suis parti dans des années qu'on appelle de geekage. Je geek, je me mets à me perdre dans l'instrument. Je vais plus en amphi, je vais plus à la fac. Je me dis, alors tu sais, quand t'as 18 piges, je claque tout, je plaque tout, je vais faire que ça. Et puis là, je me suis mis à étudier l'instrument, mais tout seul. Pas de prof, j'avais jamais croisé d'autres joueurs. Dominique, on s'est pas revus. Là, je me mets vraiment à étudier, à bosser l'instrument à fond, quoi. Et donc, on mixe un peu ce que l'instrument nous donne comme info sur lui-même. En gros, le hang, il te dit « joue-moi doucement ». Essaye de faire sortir tout le potentiel de mes notes sans les frapper trop fort, en les frappant ici et pas là. Regarde ma coque du dessus, si tu la tapes, elle fait ce son-là et tout ça. Et en même temps, t'amènes tes techniques de percussion qui s'adaptent sur une table, sur un caronne, sur un hang, c'est pareil. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Je pense pas que c'était je veux me professionnaliser, mais je commence à vraiment bosser. Et puis en fait, j'ai vu que ça prenait, on a commencé à m'inviter. Tiens-toi bien, truc de dingue, un jour on me contacte pour que j'aille faire 80 spectacles dans le Tennessee. J'étais jamais allé aux États-Unis, alors le rêve américain, le petit jeune qui va là-bas. Petit à petit, je me retrouve à voyager, à jouer du hang, à faire des CD, à les vendre. Et puis tout ça, ouais, ça se professionnalise un peu avec le temps. Bon, c'était l'aventure, quoi. Je voulais pas faire le gars, mais moi, c'est naturel, enfin, j'ai rien fait. Voilà. Et donc, je voulais admettre que j'ai bossé pour arriver à, entre guillemets, à faire ces choses-là et à développer le truc. Et en même temps, j'ai été au bon endroit au bon moment. Tu vois, donc j'essaye de rester équilibré. Mais aussi, il faut le dire, c'était le début de YouTube. YouTube est arrivé en 2007, je crois, 2008 en France. Et ça a un peu propulsé les choses parce que les vidéos ont buzzé. L'algorithme de YouTube à l'époque, il était super favorable. Et donc, j'ai commencé à avoir des millions de vues sur mes vidéos. Donc, t'imagines, elles m'ont ouvert des portes de partout. Et donc, ouais, c'est l'époque un peu, c'est le golden age, tu vois, du hang où les gens dans la rue s'arrêtent, pleurent et te donnent 50 euros. Maintenant, les gens dans la rue, ils enlèvent même plus leurs écouteurs. Ils font, ouais, c'est le handpan, là, je connais. Pour caricaturer, mais c'est un peu ça. Mais j'étais dans les années folles, les années un peu de découverte et d'explosion du hang. Les années un peu magiques dont je suis nostalgique.
À partir de cette coque, de cette demi-sphère, en fait, on va commencer à tracer le centre pour pouvoir avoir l'emplacement de la note centrale qui est le ding. Et du moment où on a celle-ci, on peut commencer à dessiner la gamme que l'on veut faire. Et voilà. Là, tu as pile poil le centre de ton instrument sur lequel on va commencer à pouvoir dessiner notre gamme, en fait. Voilà, c'est tracé. Alors maintenant, pour pouvoir avoir la note, tu vois, je me sers de ces gabarits. Attends que je retrouve le ré. Ah, le voilà. Tout simplement, on vient le scotcher dessus pour pouvoir y appliquer la pression. Voilà, donc du moment où on a fait ceci, on passe à la presse. Alors, et voilà. Voilà, 5 tonnes. On voit apparaître la partie qui a été emboutie. Et c'est à partir de là que ça va commencer pour créer l'instrument.
Cédric, c'est un ami qui m'est cher. C'est un ami plein d'enthousiasme, de passion. Et tiens-toi bien, donc il a dû t'en parler. Il était dans le milieu du bâtiment. Et comme tout le monde, il a été piqué par la mouche, là, et tombé amoureux du handpan. Et alors, il s'est mis à organiser un espèce de festival énorme, milliers de personnes, des artistes à l'international. Et en fait, tous ces événements, plus le nombre d'instruments produits qui augmentaient, a créé vraiment une communauté. Donc au début, c'était, tu sais, c'était pas encore Facebook, c'était un forum. Tu te souviens de l'époque des forums? Après, il y a eu des réseaux sociaux, pages Facebook et tout ça. Tu as de plus en plus de fabricants, tu as de plus en plus de joueurs, tu as de plus en plus de productions sur les réseaux sociaux, de choses qui sont créées, produites, de CD, d'événements. Et ça ramène du monde qui découvre l'instrument, qui veut en trouver. Ça devient de plus en plus facile d'en trouver. En ce moment, en trois clics, tu as un handpan chez toi. Il sera peut-être pas de super bonne qualité. Donc tout ce vivier de personnes a créé une communauté et qui est chouette, franchement qui est chouette. Alors des fois on peut un peu la critiquer parce que il y a un peu des dramas, des trucs et tout, mais dans l'ensemble c'est des gens super bienveillants et je m'implique beaucoup dans la communauté parce que c'est chouette quoi, c'est trop chouette.
Dans cette communauté, on est tous venus sur le tard. Il y a vraiment un élément moteur à chacun d'entre nous, même si on est tous différents, c'est le cœur. Il y a vraiment cette cohérence entre nous, cette idée de vouloir avancer ensemble. En tout cas, sur une majeure partie. On est vraiment dans une idée de partage, de plaisir, d'essayer de s'apprendre les uns des autres pour pouvoir avancer. Puisqu'en fait, on a un métier qui est le métier de fabricant. Mais on travaille tous pour l'évolution de ce magnifique instrument, en fait. Donc, on est tous des employés au service de cet instrument. Et c'est justement ça qui est intéressant et intelligent à la fois, c'est que on optimise les compétences de chacun d'entre nous, on arrive à faire évoluer cet instrument, et pas pour nous satisfaire nous, mais surtout pour satisfaire les gens qui attendent après ça. On peut pas fournir des instruments qui sont à moitié des instruments. Donc on est toujours derrière avec cette pression d'excellence au niveau du travail. Et je pense que c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait plaisir aussi, mais ça met quand même une certaine pression. Alors que contrairement, beaucoup de gens pensent que le boulot de maker, c'est tranquille, c'est... Ben, pas du tout, en fait. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures parce qu'il y a beaucoup de demandes et on ne veut pas manquer à notre devoir, en fait. C'est-à-dire que si on fait beaucoup d'heures, c'est pas parce qu'on en fait des milliers d'instruments, c'est qu'on passe le temps nécessaire sur chacun d'entre eux. Donc du coup, ben, on y est le soir, on y est le week-end, il n'y a pas de jour, en fait, hein, comme un artisan, en fait. Donc après, tu prends ton gabarit de notes autour de ton dimple. Tu vas le positionner. Et donc là, une note est formée comme si tu vois là avec une croix. La plus longue, le plus grand axe est l'axe des octaves. Et le plus court est l'axe des quintes. Donc moi, je me le notifie dessus, puisqu'après, je viens tracer ces axes pour pouvoir dessiner ma gamme. Voilà. Donc à partir de là, tu vois, tu as les axes qui sont positionnés. Et nous, le but du jeu, c'est que quand on monte la gamme, on évite que ces axes viennent se croiser pour éviter les passations de son, pour éviter les passations d'harmonique. Bah, c'est tout le jeu de la conception d'une gamme, en fait, hein. C'est éviter les problématiques qu'on rencontrera après accordage. Donc je t'avouerai que celle-ci de gamme, je la connais, c'est pour ça que tu me vois y aller aussi rapidement, parce que des fois tu peux passer jusqu'à 1h30 à 2h à monter une gamme. Quand on passe à la position shaping, et le shaping est encore plus, d'autant plus important parce qu'on va structurer la note, on va y donner du soutien, on va aussi bloquer la note, c'est-à-dire la ceinturer de manière à ce qu'elle ne s'ouvre pas à celle d'à côté. Donc le travail du shaping est très très important. Comme croit beaucoup de monde, ils pensent que c'est l'accordage le plus important, bien évidemment, mais non, parce que l'accordage n'est que la fin du travail de la conception de l'instrument, en fait. Je rencontre le handpan en 2008. 2010, je commence à m'y intéresser vraiment. 2012, je commence à avoir le mien, parce qu'à l'époque, pour avoir un instrument, aujourd'hui, quand vous annoncez 3 mois de délai aux gens, ils en perdent leurs cheveux. Mais nous, à l'époque, c'était 3 ans, 5 ans de délai, 12 mois. Moi, mon premier instrument, j'ai mis 18 mois à l'avoir. T'as le temps de plus en avoir envie, en fait. Ben, quand on a commencé à avoir cet instrument, et ben, là, on était là en train de chercher sur les réseaux. Puis à l'époque, il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y avait pas de lieu où on pouvait se renseigner, dire comment on va faire, quelle est la clé pour pouvoir passer de tel mode à tel mode. David Charrier n'existait pas encore. Les Masters of Pan n'existaient pas encore. Et donc, on s'est dit avec Cohen, ben, on va monter un petit événement et on va rassembler l'ensemble des joueurs que l'on voyait, et aussi de ce qu'on parlait tout à l'heure, parce qu'on voyait que des vidéos de joueurs qui jouaient sur des trottoirs à l'époque, dans la rue. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, on s'entend bien. Et ben, on a été chercher ces gens-là. En plus, on n'avait pas un rond, on n'avait rien, juste l'idée, en fait. Et c'est grâce à cet ensemble d'émulsions de chacun d'entre nous et l'envie de pouvoir créer une scène autour de cet instrument qui a fait qu'est né le Handpan Festival en 2014, en fait. Pour moi, dans ma tête, il n'y avait pas une seule seconde où j'allais devenir fabricant un jour, en fait. je voyais pas changer de métier. J'étais très bien dans mon métier. Dans la communauté, tout le monde me connaissait sous l'intitulé MM, le musicien maçon. Parce qu'avant bien même d'être fabricant de handpan, moi, j'ai tenu une entreprise pendant 17 ans de bâtiment dans la rénovation. Ce festival m'a ouvert en plein de choses, autant dans la conception de mon futur métier qui est aujourd'hui fabricant, autant dans le rapport avec les gens, dans tout ce qui est univers des sept chakras qu'on a rencontré là-dedans. Moi, j'ai découvert un monde. Moi, j'étais très cartésien à l'origine. Et là, je me retrouve entouré de gens qui le sont pas du tout. Et c'est pas une critique, parce qu'au contraire, ils m'ont fait changer de vie. Et au fur et à mesure des années que ce festival s'est monté, en voyant le plaisir reçu des gens, le côté émerveillement dans le regard des gens, j'ai essayé de vouloir comprendre un peu plus cet instrument. Et forcément, ça a passé par l'idée de vouloir le fabriquer. Je me suis mis à toucher mes premiers marteaux en 2017, donc ça veut dire 3 ans après la création du festival. Et fin 2018, je me suis installé avec la marque Panache Instruments.
J'ai vécu de ma musique à un âge où tu peux vivre avec 1200 euros de la musique sans aucun souci. Puis après, bon, tu te maries, tu veux faire des enfants et tout ça. Donc j'ai un petit peu stabilisé les choses et j'ai développé donc une école en ligne de cours de handpan. Je me suis mis à filmer ce que je savais faire et à le vendre en ligne. Et donc j'ai développé masterdehandpan.com là. Et aujourd'hui, donc là on est en 2023, il y a 15 000 élèves, il y a 13 profs différents et encore en 8 à venir, ça se développe. Donc voilà, et là je peux dire je gagne ma vie avec le handpan, mais pas par les concerts. La période concert est un peu derrière moi, là tu le vois autour de toi, je suis dans la période enfant en bas âge, qui est tout autant en folklore, mais je vais bientôt revenir sur scène.
Moi, je trouve que cet instrument, si on peut dire qu'il est magique, il est juste magique pour ça. Parce que beaucoup croient qu'il est magique, l'instrument est magique. Non, l'instrument n'est pas magique, c'est juste technique. Pour pouvoir le créer, c'est que de la technique, en fait. Ce qui est magique, c'est la vibration qu'il émet et qui permet d'avoir des sensibilités, des sensations et de retrouver des différentes perceptions des gens autour de celui-ci. C'est ce qui donne qui est magique, ce n'est pas l'instrument lui-même, en fait. Alors, il y a une image que j'ai sur ce festival qui est mon énergie première depuis toujours. J'étais sur scène en train de parler aux gens qui étaient là. Et puis là, je vois un papy, peut-être 70, 75 ans, je ne pourrais pas donner d'âge, en costard 3 pièces. Et à côté, je vois un ami à moi, un rastaman, pieds nus, en sarouel, les cheveux qui tombent jusqu'en bas des fesses. Ce sont deux personnes qui se seraient certainement jamais dit bonjour, hormis le festival. Et là, ils prenaient un plaisir, le même regard, ils tapaient du pied, ils souriaient ensemble. Et moi, je le voyais, j'étais en direct, j'étais en face d'eux, en fait. Et ça, c'est cet élément qui m'a motivé à aller vers ça, parce que je trouvais que cet instrument rapprochait les gens, reliait les gens, amenait une énergie que l'on trouvait nulle part ailleurs, en fait. Et c'est comme ça que les gens sont venus à moi et que j'ai décidé de faire un changement de vie à un moment donné, d'arrêter une profession qui marchait très, très bien, hein, parce que... Et je m'en cache pas, je gagnais bien mieux ma vie à l'époque où j'étais dans le bâtiment que dans la fabrication des instruments. Mais on vient pas à ce métier pour vouloir gagner des millions, c'est aucun intérêt. C'est vraiment un changement avec son personnage, déjà soi-même, et puis un changement dans le rapport avec l'autre. Alors là, ce que je fais, comme tu vois, déjà pour se préparer, quand on fait ça, il faut se mettre des poignées de force. Parce qu'en fait, on est sur un marteau pneumatique, c'est des milliers de coups qui vont sortir. Alors, poignée de force, gants anti-vibration, des choses comme ça, c'est pour se préserver nous-mêmes. Parce qu'au fur et à mesure des années, des centaines d'instruments que l'on fait, ben, en fait, les amortisseurs de toutes ces vibrations, c'est nous-mêmes. Donc, avant bien même de penser à l'instrument, il faut penser à soi si on veut perdurer un minima, quoi. Alors là, pareillement, ça va faire un peu de bruit, tu vois, j'ai posé sur ce marteau pneumatique une tête un peu large qui va me permettre de travailler la périphérique de ma note, ce qui va m'amener du soutien à celle-ci pour pouvoir travailler cette membrane et la mettre en vibration au moment où on va passer à l'accordage, en fait. Donc là, c'est parti, là, ça va faire vraiment du bruit. Voilà, donc tu vois, la note s'est complètement dessinée sur cette périphérique. Donc on a déjà, tu vois, les axes que je te parlais qui se sont positionnés. On entend au fond des harmoniques. Alors ce ne sont pas les bonnes, mais c'est pour dire que déjà les axes sont déjà bien là. Et après, c'est nous dans le travail de la mise en place de la méthode d'accordage qui permet de les faire ressortir ou pas, en fait. On en est qu'aux prémices, en fait. C'est comme tout instrument. Quand on regarde le premier instrument et 50 ans après ce qu'il y en est, il y a une évolution. Alors nous, on travaille pour le faire évoluer. On travaille pour déjà la compréhension de ce que l'on fait. Tu le vois déjà. Regarde derrière moi. On voit bien que déjà en 5 ans, il a pris une sacrée claque, une sacrée évolution. Et quand on passe d'un instrument de 7 notes, de 8 notes au démarrage, où aujourd'hui, il y en a qui en sortent à 30 notes, on n'est déjà plus du tout sur les mêmes caractéristiques, quoi. On est vraiment sur un autre travail, une autre compréhension, parce que là, il faut travailler, élargir les coques, les gonfler, étirer la matière, comprendre comment va réagir la matière en fonction de comment on va l'étirer. C'est un travail qui se fait au fur et à mesure, mais ça évolue. Ouais. Alors, il y a beaucoup de déchets, hein, mais de temps en temps, il sort un masterpiece au milieu et qui dit « Ah ben merde, on peut arriver à faire ça ». Donc, on n'est pas arrêté qu'à ce qu'on sait aujourd'hui, il va se passer forcément d'évolution. Mais l'évolution, ça se fait pas en 6 mois, hein, on le sait bien. Il va falloir, je pense, quelques générations de fabricants. Quoiqu'aujourd'hui, les nouveaux qui arrivent ont déjà des bases bien plus solides que nous, puisque nous, on n'avait rien. Aujourd'hui, ils ont quand même tous les réseaux sur lesquels se rappuyer, les confrères comme nous, sur lesquels ils peuvent nous appeler pour les aider. Donc, ils ont quand même une marge d'apprentissage qui est quand même bien plus rapide que nous à l'époque.
J'ai quand même l'impression que, comme tout objet créé, ça va continuer de séduire des gens, parce que l'instrument est magnifique. Et je pense que, comme tout développement, il y aura des choses vraiment chouettes. Moi, surtout si ça permet un peu de désélitiser le truc, de le rendre accessible, de permettre à tout le monde de pouvoir s'en payer un, je suis content. Alors, quand tu regardes sur des outils Internet, la recherche du mot handpan est croissante. Donc, on n'a pas du tout atteint le pic. On n'est pas du tout dans un désenchantement où c'est fini, c'était un peu la mode ou quoi. Pas du tout. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de fabricants. Forcément, la concurrence va faire le tri. On aura des gens qui seront plus des luthiers. Il y aura des personnes qui auront su prendre un peu le virage, se positionner sur le marché, scaler leur business, se développer, s'enraciner. Et vraiment, ils vont survivre. Et puis, il va se développer encore de nombreux métiers autour de ça. Je pense qu'on n'a pas fini d'améliorer l'instrument, de le développer. Et puis moi, ce que je suis content, c'est qu'en fait, plus on développe le handpan, plus aussi on va développer la musique. Parce qu'on oublie, là, on parle beaucoup de fabrication, mais il va y avoir de plus en plus de groupes de musique qui l'incorporent. Il va y avoir de plus en plus de gens créatifs. Je pense qu'il y a d'excellents percussionnistes qui n'en ont même pas entendu parler ou qui n'en ont même pas un. Et j'ai hâte de le voir entre certaines mains et de voir un peu des projets naître au-delà du joueur solo, vidéo maison. On va avoir des productions musicales de plus en plus bonnes et c'est chouette. Thank you.
Dans le handpan, en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais, ou très peu. Il y a juste des sensibilités différentes d'un maker à l'autre. Et ce qui peut être juste génial dans ça, c'est que tu peux très bien venir m'acheter un instrument chez moi et le second, venir l'acheter chez un confrère à moi. Ça ne veut pas dire qu'il sera mieux ou moins bien que le mien, mais il va te parler différemment. Et c'est ça qui est juste génial dans notre métier. Ça veut dire qu'on n'est pas, de la série, on est vraiment l'artisanat complet. C'est qu'on a la personnalité du maker et de la discussion qu'il a eue avec son client. Donc, on est vraiment tous complémentaires, en fait. Et je pense que c'est bien de regarder tous les fabricants et de passer chez chacun d'entre nous, en fait. On est une trentaine en France à faire ça. Ben, j'ai juste envie de dire bravo à tous mes collègues, quoi, parce que c'est une chance pour nous de faire ce métier. C'est une chance de vous rencontrer, vous, les gens qui aimez cet instrument. Et pour moi, c'est un métier passion. Et j'ai juste une chose à dire, c'est merci à la vie, voilà.
Instrument acoustique singulier. Une série documentaire de Jean-Bernard Roser avec la participation de David Cherrier et Cédric Plat. Musique de David Cherrier et Laurent Sureau. Production ASBL sansdorigine.be accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenue par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.